France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. On a commémoré cette semaine les 10 ans de la triple attaque des 7, 8 et 9 janvier 2015 qui visèrent la rédaction de Charlie Hebdo, une école juive du 14e arrondissement et le magasin hypercachère de Vincennes et qui inaugurèrent en France une vague de terreur telle que le pays n'en avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette vague de terreur fit 256 morts, des blessés à vie par milliers et une sage-fac avec l'attentat de Nice 18 mois plus tard, le 14 juillet 2016. C'est sans compter les attaques déjouées par les services de renseignement, une par semaine environ entre janvier et novembre 2015. L'attentat de Nice a signé officiellement le reflux de cette période, mais l'une des spécificités de la terreur, c'est d'agir sur le temps long. Plus rien n'a été pareil après ces attentats, dont le choc a contribué à la brutalisation de la vie publique française. Où en est-on aujourd'hui, 10 ans plus tard, dans un cadre que le chercheur Hugo Micheron appelle « insurrection intellectuelle intensifiée par les réseaux sociaux », tandis que le pays s'enfonce dans une crise politique sans beaucoup de précédent, et tandis que jamais autant de personnes n'ont été placées sous protection policière. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec les invités de cette émission. Fadila Maroufi, bonjour. Vous êtes anthropologue, cofondatrice et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes à Bruxelles. Laurence Bindner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de JOS Project, une plateforme d'analyse des discours extrémistes violents et radicaux. Vous avez été aussi auditrice à la 72e session nationale politique de défense de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et Yosef Morciano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France et vous étiez adolescent au moment des attentats. Et je vais commencer par vous. Où est-ce que vous étiez exactement ce jour-là, le 9 janvier 2016 exactement? Le 8 janvier même.
Le 8 janvier même, on peut ouais. Reprendre au 7 janvier. En effet, j'étais adolescent, j'étais pas majeur et je me souviens d'une conversation avec des amis où on essayait de comprendre l'impact de Charlie Hebdo sur nos vies, où tout de suite on a compris, en fait, on a saisi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que derrière les journalistes de Charlie Hebdo, derrière les dessinateurs, il y avait nous qui étaient visés. En fait, c'est un traumatisme pour la France, les attaques de Charlie Hebdo. Et nous, en tant qu'adolescents, enfin, c'est un traumatisme d'adolescence. Et voilà, c'est comme ça que je me souviens du 7 janvier, le 8 janvier au matin, à 8 heures et quelques, on apprend que, à quelques mètres de l'école juive de Montrouge, là où mes sœurs sont scolarisées, là où mon père vient de déposer ses filles, mes sœurs, il y a un terroriste qui descend d'un hôtel, qui prend sa voiture, qui fait un accident, qui sort et qui tire sur la police municipale venue s'occuper de cet accident-là. Et à ce moment-là, je pense que la communauté juive de Montrouge, mon père, mes sœurs, enfin moi et mes copains, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, que s'il avait juste continué sur la route, il allait devant l'école faire ce que Mohamed Merah avait fait dans l'école Haute Zaratora à Toulouse.
Et, 3 ans plus tôt.
3 ans plus tôt, en 2012, et c'est ça en fait qui nous a saisis avec des copains. On a décidé de sécher les cours et de se mettre devant la synagogue de Montrouge, l'école de Montrouge, pour tenter de faire semblant de la protéger. J'ai dit qu'on avait joué au vigile parce que vraiment, enfin, on était loin de nous pour nous ce qu'on était censé faire quand on protégeait une synagogue ou une école, c'était d'empêcher des racailles de venir insulter les passants de salles juives. Là, en fait, s'il y avait quelqu'un qui débarquait avec une Kalachnikov, on n'allait pas tenir longtemps. Mais bon, il fallait agir. On était un peu terrorisés. Et il se trouve que donc le lendemain matin, sous les coups de 9h, quand j'apprends la prise d'otage à l'hypercachère, pendant que je suis devant une école juive. Et voilà, j'ai passé une journée d'enfer. Je me souviens qu'on était allé chercher tous les petits commerçants juifs du quartier pour les ramener à l'école qui était complètement bunkerisée. On avait fermé les portes, même ceux qui croyaient pas en Dieu étaient en train de prier. Et voilà, et à la fin de la journée, vers 17h, ben, on a appris la mort de Johan, de Yoav, qui était un petit peu plus vieux que moi à l'époque, de François Michel et de Philippe, et nous on avait le sentiment d'avoir survécu. Et c'est pas seulement mon sentiment, c'est le sentiment de toute la petite communauté juive de Montrouge qui a vraiment cette impression d'avoir survécu à l'attentat du 8 janvier 2015, qui n'a pas eu lieu, l'attentat de l'école juive de Montrouge. Voilà.
Fadila Maroufi, vous étiez à Bruxelles, vous étiez en train de travailler sur votre master d'anthropologie, et pour ça vous aviez infiltré une mosquée, enfin la part féminine d'une mosquée, au moment des attentats, et vous avez écouté les discussions.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai été infiltrée depuis quelques mois déjà, à partir d'octobre 2014. Et c'est vrai que quand il y a eu ces attaques, ces attentats, j'étais chez moi et je me souviens très bien, en fait, parce que ça m'avait vraiment fortement marqué. J'ai commencé à pleurer parce que pendant ces mois que j'ai vécu au sein de cette mosquée, j'avais déjà tous ces discours de haine vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis de l'Occident, etc. Et pendant quelques jours, je me suis abstenue d'aller mettre les pieds dans cette mosquée parce que vraiment l'émotion était terrible, parce que je me suis rendu compte et j'ai été vraiment une prise de conscience de ce qui est en train de se jouer pour moi. Et au bout de quelques jours, quand je suis retournée et que je me suis présentée à ces cours des assises spirituelles qui étaient adressées à des jeunes filles qui étaient en plein questionnement sur ce qui s'était passé et qui avaient demandé au professeur des explications en disant qu'elles ne comprenaient pas, que normalement on ne devait pas tuer en islam, etc. Ben, je me suis retrouvée face à un professeur en fait qui justifiait le martyr, qui justifiait en se mettant en position évidemment de victime, en disant que son mari lui avait conseillé de ne pas aller à la mosquée parce qu'elle allait être attaquée à cause des attentats, et donc elle a justifié le martyr en disant vous vous rendez pas compte, moi je lui ai dit que je vais retourner à la mosquée parce que si je meurs en martyr, si on m'attaque, je meurs en martyr, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et donc pour moi c'était une justification, et j'ai vu dans le regard de ces jeunes filles en fait des interrogations, des questionnements, mais aussi un silence qui voulait aussi tout dire, c'est-à-dire c'était ce silence que j'avais pu entendre pendant quelques mois, si Dieu l'a dit, si Allah l'a dit, bah, il va falloir s'y résoudre, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et donc, moi, j'ai vu le départ de quelque chose qui s'annonçait, que je craignais depuis déjà pas mal de temps, parce qu'en tant que travailleuse sociale, j'ai aussi travaillé pendant 20 ans dans les différents quartiers. Et ce que je craignais le plus, il était en train de se produire, et je voyais que dans ces lieux, finalement, on était en train de fabriquer des futurs djihadistes en herbe, des futurs combattants pour l'islam radical.
Et ce que vous dites, c'est que les femmes qui étaient là, en fait, au départ, étaient venues pour éviter que leurs enfants soient recrutés. C'était ça la stratégie de communication.
Tout à fait. Donc quand j'ai interrogé la plupart des personnes, des femmes, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'elles venaient dans ces lieux, et elles me disaient, mais t'as pas entendu ce qui s'était passé avec Daesh, moi je veux pas que mes enfants soient recrutés et qu'ils partent en Syrie. Et puis je me suis rendu compte effectivement que quand les professeurs disaient qu'on allait bientôt rentrer en guerre contre les Juifs, qu'il fallait les tuer, ils utilisaient même le terme exterminer, ou qu'il va falloir aussi tuer les homosexuels, la plupart des femmes en fait ne réagissaient pas. Elles étaient impassibles, et surtout la manière aussi dont ça avait été dit par ces professeurs, c'est-à-dire qu'elles le disent avec un sourire, avec un calme qui fait froid dans le dos, comme si c'était tout à fait quelque chose de normal, et toutes les femmes l'acceptaient, et certaines me finissaient par dire, si Allah l'a dit, c'est que c'est comme ça, et finissaient par l'accepter.
Alors, Laurence Bintner, il y avait un contexte. Ces attentats, ils sont pas de 2015, ils sont pas arrivés comme ça, ils sont pas tombés du ciel. Il y avait une montée de la violence qui avait commencé dès le début des années 2000, et la violence antisémite en particulier, qui a largement préparé ce qui allait arriver. Une des choses qu'on ignorait, enfin qu'on n'arrivait pas à savoir, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'école de Montrouge. Quand on lisait la presse française pendant les événements, il n'était pas du tout question de cette école. On avait l'impression que Clarissa Jean-Philippe, la policière victime, s'était fait tuer par hasard, en quelque sorte. Il fallait écouter CNN ou il fallait écouter des chaînes étrangères pour s'en rendre compte. Il y avait, sur ce silence qui a conduit à 2014, et sur la montée de la violence pendant toutes ces années-là, à partir de 2000, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Je crois déjà que la série des trois attentats de 2015, c'est, comme vous le disiez tous les deux, c'est un peu un moment charnière où il y a une prise de conscience par la société française de l'exportation d'un djihad syrien sur le territoire national. Donc c'est un choc de valeur, c'est la liberté d'expression, c'est l'irrévérence cléricale à la française qui sont attaquées avec Charlie. Clarissa Jean-Philippe, effectivement, on n'a pas perçu tout de suite que c'était l'école juive de Montrouge qui était ciblée, mais donc c'était quelque part l'institution française dans son ensemble qui était ciblée, elle portait l'uniforme. Et effectivement, l'hyper-cachère s'inscrit dans la continuité d'attaques précédentes, mais c'est la liberté de conscience, la liberté religieuse, etc. Donc c'est à ce moment-là que le grand public prend conscience de ceci. Il y a deux choses. Les autorités, elles, et puis ceux qui travaillent sur la thématique, étaient conscients que la vague allait arriver. Dès les années 2000, hein, on a eu des attentats sur le sol européen. C'était Al-Qaïda à l'époque, 2004 à Madrid, 2005 à Londres. Il y avait des réseaux en France qui étaient en train de se former. Et puis, 2012, Mera. Et en fait, c'est ici la date charnière réelle, hein, puisque c'est en 2012 que quelqu'un qui s'est formé sur une terre de djihad revient sur le territoire national. Ensuite, il y a eu les filières syro-irakiennes. 2014, c'est Mehdine Emmouche, donc encore une continuité dans Mehdine les actes.
Mehdine Emmouche, c'est le tueur du musée juif de Bruxelles, mm-hmm. qui est né et a grandi à Roubaix.
Exactement. Donc Mehdine Emmouche, qui était en fait membre de l'État islamique, qui était en Syrie, qui est venu à Bruxelles pour commettre son attentat contre le musée juif, 2014. Juin 2014, la proclamation du califat. 2014, c'est aussi le moment où il y a eu les premières vidéos de la part de djihadistes français sur zone qui menaçaient la France. Et voilà, il y a eu l'attentat de Jouer les Tours en décembre 2014, etc. Donc il y avait... Si vous voulez, la vague qui a déferlé pour le grand public en janvier 2015, elle était déjà anticipée par les services de renseignement. Novembre 2014, c'est des nouvelles lois. C'est la loi contre l'entreprise terroriste individuelle. C'est le passage de l'apologie du terrorisme, du droit de la presse au droit pénal, avec un alourdissement des peines, etc. etc. Donc voilà, ça arrive à ce moment-là, mais le contexte était déjà bien là.
Et Yosef Mursiano, alors vous étiez trop jeune, mais enfin, l'antisémitisme a joué un vrai rôle de ferment dans les années qui ont précédé les attentats de 2015. À la fin 2014, en décembre 2014, le nombre d'incidents antisémites pour l'année était de 800, ce qui était énorme à l'époque et qui aujourd'hui a l'air d'être presque normal, mais c'était un chiffre complètement inédit, c'était plus de 2 par jour. Et puis le 26 janvier 2014, l'année avait commencé par une manifestation qui était une manifestation officielle d'extrême droite, jour de colère contre le gouvernement Hollande, mais dans laquelle les dieudonistes et les soraliens avaient défilé au cri de juif, la France n'est pas à toi, et crif, la France n'est pas à toi, les deux. Il y avait cette montée dont les juifs étaient conscients, mais de manière confuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à part Mera, il n'y avait rien sur quoi s'appuyer pour alimenter ce sentiment.
Oui, il y avait un sentiment, à mon avis, un sentiment de... En fait, le terrorisme dont on parle, il a fonctionné sur les Juifs de France à cette période-là. On se sentait menacé, à la fois on se sentait menacé, on voyait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer quelque part, qu'il y avait des groupes en France qui étaient en train de... pas de donner raison à ceux qui criaient les juifs, la France n'est pas à toi, mais en tout cas qui les excusaient ou en tout cas qui remettaient en question. Moi je me souviens de discussions avec des gens qui disaient non mais... Faut réécouter la vidéo parce que c'est pas exactement ça qu'ils disent, etc. Enfin, on est dans une forme de volonté de déni, quoi.
Oui, de déni.
Il y a quelque chose comme ça parce que, en fait, mais je comprends ce déni. Enfin, une fois qu'on a basculé dans des manifestations où on crie juif hors de France, etc. Enfin, on a dépassé un stade et on est, il faut s'occuper du problème, etc. Donc, on enclenche quelque chose de complètement autre. Et je pense que la France, à cette époque-là, en 2014, en tous les cas, ne voulait pas ça. Et je me souviens aussi dans les mêmes années de ce qui s'était passé à Sarcelles de juillet 2014, de cette manifestation qui avait fini devant devant la synagogue de Sarcelles, avec pareil des groupes d'adolescents ou d'un peu plus vieux, de vigiles de la communauté qui tentaient de défendre une synagogue assiégée en Île-de-France.
Oui, tout l'été 2014.
Exactement. Et je pense qu'on ressentait ça. Je pense qu'il y avait une forme de mobilisation sécuritaire, purement sécuritaire, où le message politique était un petit peu flou. Et moi, je me souviens de 2015 aussi comme étant le moment où on bascule sur une structure politique, en tout cas dans la communauté juive, de ce qu'on veut pour lutter contre cette peur, ce terrorisme-là. Moi, je me souviens que le 10 janvier 2015, le samedi soir, je suis allé avec ma famille, etc., devant l'Hypercacher, parce que l'Union des étudiants juifs de France avait appelé à une manifestation. Et pour la première fois, il y avait, je me souviens, des juifs rassemblés sur le lieu d'un attentat. Avec cette volonté de dire, attendez, nous, on n'a pas peur, on va pas avoir peur. Alors, évidemment, tout le monde était terrorisé. Enfin, je me souviens que tout le monde était terrorisé. Moi, je venais de passer un week-end devant une synagogue. Je peux vous dire qu'en tout cas, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, j'étais au summum de la terreur. Et en voyant des jeunes juifs, des jeunes étudiants qui étaient purement républicains, purement français, qui disaient « Attendez, nous, on va pas avoir peur, nous, on va continuer, on va se battre. Et on va se battre non pas seulement pour les valeurs juives, mais pour les valeurs de la République, etc. » C'est là où vraiment il y a eu un changement, une structure du discours politique. Et c'est ça qui m'a plu aussi dans ce militantisme-là.
Alors, dans les années qui dans lesquelles la violence est montée, pourquoi est-ce que Bruxelles est si important? On s'en rend compte quand on regarde un peu l'histoire améra. Il y a eu toute cette logique du déni en France pendant des années sur l'idée que l'antisémitisme n'existait pas vraiment, d'une part, que Meira était un loup solitaire. En fait, on sait aujourd'hui que les frères Klein, dont on a entendu la voix sur la vidéo de l'État islamique revendiquant l'attentat du Bataclan, étaient ceux qui avaient formé Mohamed Meira à Toulouse, et un des éléments de leur formation, c'était les nombreux voyages à Bruxelles dans lesquels ils allaient chercher la propagande islamique qui ramenait jusqu'à Toulouse. Bruxelles semble avoir été une plaque tournante de la propagande islamiste très tôt. Fadila Maroufi, vous avez littéralement vu monter cette propagande. Vous êtes née là-bas, vous avez grandi là-bas. Comment ça s'explique?
Alors moi, je dirais qu'à partir déjà dans les années 80, je suis née en 76, donc dans les années déjà 80, on a pu voir que toutes les familles d'origine maghrébine, de confession musulmane, envoyaient leurs enfants dans les mosquées pour apprendre leur religion. C'était pour ne pas perdre, évidemment, leur lien à leur religion. Et ces mosquées, en fait, ont servi vraiment d'endoctrinement pour ces jeunes, puisque la plupart des imams venaient de l'étranger. Et puis, petit à petit, on va voir aussi la présence des frères musulmans qui vont aussi jouer un rôle important. Il faut savoir que déjà dans les années 90, on avait déjà quelques personnes qui partaient faire le djihad en Afghanistan. Mais c'était pas encore mal vu, puisque c'était des gens qui faisaient la guerre contre l'URSS. C'était les alliés, on va dire, avec les talibans des États-Unis qui les fournissaient en armement. Et petit à petit, je dirais que dans les années... Si je veux faire aussi en lien avec ce qui se passe avec Charlie Hebdo, c'est qu'en 89, il faut se souvenir, il y a eu l'affaire Salman Rushdie, qui était le point de départ, en fait, de la censure la liberté d'expression. Moi, je me souviens qu'à Bruxelles, le jour où il y a eu cette fatwa, on a interviewé les journaux, la presse belge a interviewé l'imam de la grande mosquée de Bruxelles, et qui a dit qu'on ne pouvait pas émettre d'une fatwa, on ne pouvait pas tuer au nom de la religion. Et le lendemain, il a été assassiné. On en a très peu parlé, ça a été moins relayé, mais c'était déjà le point de départ, ce qui signifiait aussi pour la communauté musulmane, il fallait absolument se taire sur ces questions-là. Donc on rappelait à l'ordre la communauté musulmane. Et puis il y a eu les caricatures au Danemark, parce que Charlie Hebdo n'a pas imprimé ces caricatures pour rien. Il y a eu un avant, ça se passait au Danemark, et à la base c'est quelques imams radicaux qui ont demandé un asile politique au Danemark, qui ont vu ces caricatures. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette caricature qui ont été faites dans ce journal de Jyllands-Posten? C'est parce que un des journalistes a constaté l'autocensure et la censure autour de questions de l'islamisme. Et donc il a décidé pour vérifier ça, de proposer un concours de dessin. Et c'est ces caricatures-là qui ont été ensuite imprimées. Et donc, il y a eu une vague de menaces de mort. Et ces imams ont persisté. C'est-à-dire que quand ça s'est produit, quand les caricatures ont été imprimées, c'est pas tout de suite qu'il y a eu ces appels au meurtre. C'est qu'il a fallu attendre l'acharnement de ces imams qui sont partis dans des pays comme l'Égypte, le Pakistan, etc., pour exciter le monde musulman. Personne ne les avait ni vus ni lus. Et c'est à la suite de ça que Charlie Hebdo décide justement de reproduire et de soutenir en fait la censure autour des dessins et de la liberté d'expression. Et ce qui aurait été bien, c'est que toute la presse puisse en même temps soutenir ces caricaturistes. On aurait, à mon avis, moins de... Charlie Hebdo aurait été moins...
Ça aurait été moins focalisé sur eux.
Exactement. Et c'est vrai que Bruxelles est particulièrement touchée par cette caricature, parce qu'il y a eu aussi l'Algérie, la dessinée noire. On a eu beaucoup de gens qui venaient de l'Algérie, qui venaient soit en France, donc des terroristes, qui venaient soit en France demander l'asile politique, ou en Belgique. Et tous ces gens, en fait, ont favorisé, quelque part, l'endoctrinement de ces jeunes qui vont être des futurs... Jed.
Si me escuchara y pudiera acercarme hacia la sombra que deja un velo en su rostro, restando luz a mis ojos. La pudiera traer conmigo hacia el resplandor del sol que ilumina el mundo.
Alors, les attentats de janvier 2015, 10 ans après, qu'est-ce qui a changé depuis ? Beaucoup de choses, évidemment. On n'est pratiquement plus dans le même monde. Il y a les réseaux sociaux qui ont gagné en importance considérable. Il y a évidemment le 7 octobre. Laurence Bindner, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui a changé fondamentalement depuis janvier 2015? Est-ce que la situation s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est au contraire aggravée?
La situation a changé. Il y a eu des constantes et des variables. Parmi les constantes, il y a déjà la persistance de la menace djihadiste, qui a évolué un peu en sinusoïde depuis 2015. Il y a eu des hauts et des bas, mais en fait, elle est persistante, elle est en recomposition, notamment de la part de l'État islamique, même si elle a changé de forme, c'est-à-dire que à mesure que l'État islamique s'est décentralisé, cette menace a changé de forme, on n'est plus actuellement sur des commandos qui sont envoyés comme en 2015 les attentats de novembre. On est sur une menace qui est plus inspirée, comme le montre l'exemplifie plutôt l'attentat de la Nouvelle-Orléans d'il y a quelques jours. On est sur une menace qui fonctionne également plus en réseau, parce que l'État islamique s'est décentralisé. Il a maintenant trois épicentres, Syrie, Irak, Afrique et la région du Khorasan, entre l'Iran, l'Afghanistan et l'Asie centrale, qui a boosté les opérations extérieures de l'État islamique en mobilisant des réseaux de personnes originaires de ces régions-là, d'Asie centrale et du Nord-Caucase en Europe. Donc voilà, on a une menace qui est persistante, mais qui a muté.
Vous parlez aussi d'un rajeunissement de la menace.
Oui, alors, il y a aussi dans les constantes la France qui continue à être... très ciblée par la propagande. Depuis le milieu des années 2000, Elle est accusée de d'être en guerre contre l'islam, à la fois au niveau religieux, avec les lois sur le voile, avec la laïcité, au niveau militaire et cinétique, hein, avec les interventions militaires dans des pays musulmans. La France est accusée par la propagande de piller les ressources des pays musulmans. Et au niveau culturel, avec l'irrévérence anticléricale traditionnelle. Et la communauté juive reste évidemment très visée. Le rajeunissement de la menace, c'est un fait qui est pas uniquement français, donc qui est à l'international, qui est pas uniquement sur la menace islamiste radicale, qui est aussi sur l'ultra-droite, et qui est un phénomène tout à fait particulier avec des jeunes parfois de 12 ans qui administrent des canaux Telegram, qui téléchargent des tutoriels. Je crois que ça s'explique à la fois par une demande de la part de ces jeunes, mais par une offre spécifique de la part des mouvances djihadistes. Une demande, on va dire, structurelle de la part d'adolescents qui sont en recherche de transgression, qui ont une appétence pour la violence, etc. Ça, c'est quelque chose de déjà connu. Et une demande plus structurelle avec peut-être les années Covid et le confinement qui a exposé davantage ces jeunes à des contenus radicaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une propagande djihadiste qui cible délibérément ces jeunes en envoyant des sortes de produits d'appel, entre guillemets, sur des plateformes qui sont fréquentées par les jeunes, en utilisant des formats, ça a été explicité hein, par ces groupes, formats plus courts, parce que les jeunes zappent plus et lisent moins, formats plus émotionnels, et également, ils sont également influencés par des contenus. On a vu récemment en Italie l'arrestation d'un jeune qui voulait commettre un attentat et qui avait été en fait influencé par le visionnage de vidéos de l'État islamique dans lequel des mineurs préparaient des attentats suicides. Et donc il y a un effet identificatoire et un effet mimétique.
Alors, parmi les éléments importants, Hugo Michron dit que l'analyse qu'ont fait les djihadistes, c'est que si l'État islamique a perdu militairement, en revanche, il y a eu un gain, c'est qu'ils avaient réussi à mobiliser près de 6000 candidats au djihad depuis les pays d'Europe. Donc il y avait là un vivier à cultiver pour l'avenir, d'une part, et puis d'autre part, le terrorisme, c'est les anarchistes le définissaient comme la propagande par le fait, c'est-à-dire que c'est l'acte qui est lui-même le message, son propre message, et de ce point de vue, le 7 octobre a joué un rôle très important, il me semble. Hugo Michron, toujours lui, dans un papier dans le Grand Continent, signé avec Antoine Jardin, parle d'une véritable révolution communicationnelle, la première guerre mondiale de l'information avec le 7 octobre. Tous les deux constatent que une situation insuffisamment commentée, à savoir que les volumes de contenu produits, partagés et commentés ont, dès le déclenchement de l'opération Déluge et Al-Aqsa, dès le 7 octobre, atteint des niveaux supérieurs à ceux du dernier pic historique en la matière, qui était l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Une mobilisation hors norme, observable dans le monde entier et sur l'ensemble des plateformes sociales, X, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, YouTube, Discord et les autres, y compris dans des groupes qui n'ont absolument rien à voir avec le Moyen-Orient et avec le conflit israélo-palestinien. Donc ça, il y a une sorte de le 7 octobre est devenu une espèce de point de centre de centralisation de l'attention mondiale via les réseaux sociaux et donc évidemment de conflit également. Ça entretient l'attentat lui-même et la manière dont il est véhiculé entretient un climat de tension, de polarisation.
Oui, alors je rejoins Hugo Michron dans cette analyse. Le 7 octobre a eu un effet déflagratoire au niveau de la communication. D'abord au niveau des groupes djihadistes eux-mêmes et au niveau des sphères très radicales, mais également, et ça c'est très différent par rapport aux autres attentats qu'on avait vus jusqu'à présent, ça s'est étendu à des sphères qui étaient beaucoup moins radicales. Il y a eu un double phénomène. Il y a eu un phénomène, en fait, juste après le 7 octobre, tout à fait jubilatoire, de galvanisation. Les groupes djihadistes, mais bien au-delà, ont été galvanisés par ce qui s'était passé, par les massacres du Hamas. Et c'est quelque chose, on parle souvent du continuum entre les mots et les actes, mais là, je crois qu'il faut voir l'inverse. Il y a eu une sorte de continuum entre l'acte qui a désinhibé une parole, qui a décomplexé une parole. Absolument. Donc un continuum entre l'acte et le mot. Ça a boosté la propagande de manière générale sur ce 7 octobre, mais également une propagande djihadiste et islamiste radicale qui utilise les destructions à Gaza pour susciter des griefs et des chocs moraux chez une partie de la population pour lesquels c'est quelque chose de très inacceptable.
Sinon, les effets de cette propagande, vous l'avez vécu directement dans les universités.
Les lignes ont complètement bougé depuis le 7 octobre. Déjà, sur ce qui vient d'être dit, sur la libération de la parole juste après le 7 octobre, c'est un phénomène qu'on a tout de suite constaté. Alors, de façon peut-être naturelle, on aurait pu imaginer qu'un acte antisémite de cette ampleur allait, au contraire, calmer l'antisémitisme sur les campus. Aller restreindre les antisémites qui se seraient dit « Non mais je vais peut-être pas parler maintenant, je vais peut-être pas provoquer et avoir des paroles antisémites juste après un tel massacre, etc. » C'est pas du tout le cas. Ça a complètement fait bouger les lignes. On est passé d'un antisémitisme plutôt silencieux, cette haine d'Israël qui circulait, etc., où il y avait des pics à certains moments, mais où au quotidien, franchement, c'était en tout cas le discours d'une frange très minoritaire, etc. Là, il y a une sorte de libération et de vague de haine qu'on a subi dans les universités qui est d'une violence inouïe. Je me souviens d'une jeune fille qui, sous prétexte qu'elle était juive, s'est fait bloquer en sortant d'un amphi par deux trois garçons qui lui disaient « Bon bah alors qu'est-ce t'en dis ?» en lui montrant des images de ce qui se passait à Gaza. Exactement ce que vous dites. Enfin, ça veut dire le choc moral. Ils essayaient de la faire réagir sur ça seulement parce qu'elle était juive. Et en fait, ça a dérivé d'une... Enfin, alors, nous, on dit que ça, c'est de l'antisémitisme. Déjà, quand on va voir un juif et qu'on lui dit « Parce que t'es juif, tu dois... qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe à Gaza, etc. ?» Déjà, c'est une forme d'antisémitisme. Mais alors là, ça a dérivé complètement. Cette jeune fille, elle s'est échappée et ils ont fini par lui arracher sa jupe qualifiée de jupe de juive. Voilà. Dans une université, en sortant de l'université. Voilà où on en est, en réalité...
Et vous dites que quand vous êtes allé vous plaindre auprès de l'administration, vous avez répondu qu'il fallait voir un psychologue.
Alors là, pour le coup, c'était pas la même histoire, mais en effet, il y a cette réponse là qu'on a. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une radicalité des discours antisémites, et que en fait, face à cette radicalité, les personnes qui pourraient avoir une parole un peu plus nuancée, calme, etc. Sont dans une forme de lâcheté folle et ne veulent pas être en confrontation et monter leur niveau de réponse en fonction du niveau de violence qu'il y a en face. Et donc cette dichotomie-là, ce paradoxe-là, fait que les étudiants se sentent seuls.
Fadila Maroufi.
Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a mis beaucoup le focus sur les djihadistes, mais il faut aussi comprendre que c'est plusieurs décennies de la propagande idéologique des frères musulmans quand même en Occident, et que le danger vient d'abord de l'Occident, en réalité, de toute cette génération qui a été nourrie par Tariq Ramadan, par tous ces discours fréristes, mais aussi par toute cette politique menée par certaines personnalités politiques qui ont laissé différents acteurs qui ont noyauté, en fait, les différents secteurs, dont l'université. Et d'ailleurs, il y a des acteurs qui sont très actifs. Et depuis le 7 octobre, en fait, ce qui existait déjà, en réalité, ça leur a permis d'en parler un peu plus, parce que, en réalité, les frères musulmans ont cette intelligence, en réalité, d'avoir su utiliser les outils informatiques de communication pour faire de la propagande. Et c'est pas nouveau. Et c'est ce qui permet, c'est eux qui nourrissent, en réalité, les actes de djihadistes. Il n'y a pas, vous avez parlé tout à l'heure de loup solitaire. Chez les musulmans, il n'existe pas de loup solitaire. C'est parce que c'est quelque chose qui est construit aussi bien dans tous ces groupes djihadistes, dans tous ces mouvements fréristes, dans ces lieux, ces mosquées, qu'au sein bien même des familles, et qui a duré. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre 2023, ça n'a fait qu'exploser et montrer la réalité que moi je connaissais déjà au sein même des familles depuis plusieurs décennies.
Vous avez vécu ça très directement, à la fois au sein de votre propre famille et comme travailleuse sociale dans les quartiers.
Tout à fait. Mais là, la difficulté à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a toujours de la difficulté, et c'est même devenu pire, c'est qu'il y a vraiment une autocensure des personnes, des citoyens, il y a de différents acteurs qui ne veulent pas nommer les choses. Pour moi, la première chose à faire, c'est nommer les choses. Vous avez une chercheuse française, Florence Berger-Blaclair, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Elle explique vraiment tout le processus et tout ce qui s'est passé historiquement, etc., jusqu'à présent. Elle est menacée de mort. On la voit très rarement intervenir dans l'espace public et dans les médias publics, parce qu'une fois que vous avez le sceau de l'extrême droite, vous ne pouvez plus quasiment passer partout. Les gens ont peur.
Ça veut dire qu'on la traite
d'extrême droite. Et en fait, à partir du moment où vous osez parler de ces choses-là, tout de suite vous avez l'étiquette d'islamophobie, l'étiquette de l'extrême droite, et Sophia Aramou en a fait aussi d'ailleurs il y a peu de temps l'expérience. Elle est traitée d'extrême droite parce qu'elle parle de l'islamisme, parce qu'elle soutient Charlie Hebdo, parce que elle a dénoncé les attaques terroristes du Hamas. Or, ce qu'il devrait y avoir, c'est plutôt un soutien des personnes qui défendent nos valeurs de la République. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est attaqué? Ce sont nos valeurs, ce sont nos principes de laïcité, de vivre ensemble, du vrai vivre ensemble, pas du vivre les uns à côté des autres. Parce que quand on voit certains acteurs, comme vous le disiez, quand on parle du recteur de la Grande Mosquée de Paris, quel a été son discours depuis le 7 octobre? Il y a eu un silence et puis il a essayé de s'en sortir avec des justifications, etc. Il n'y a pas eu une dénonciation des différents acteurs religieux et des musulmans d'une manière très claire. Et c'est à mon sens, c'est ça qui a fait que ça permet d'aller dans toutes les dérives.
Laurence Binder.
Oui, je voulais réagir sur deux choses, sur ce qui vient d'être dit. D'abord sur la polarisation de la société et aussi sur les facs. Sur la polarisation de la société, je crois que si on élargit la focale autour de l'islam politique radical, qui a en effet tout à fait ses propres objectifs, ses propres desseins. Je crois qu'il y a aussi une stratégie de radicalisation réciproque qui a réussi à déclencher en fait la vague d'attentats djihadistes.
Oui,
et voilà, c'est l'objectif. Avec depuis 2015 une ultra-droite qui a été alimentée qui se structure, qui se transnationalise, qui a été alimentée et qui a médiatisé l'équation islamisme égale islam. Et c'est sur cette fausse équation, évidemment, que la mouvance de l'islam politique radical a capitalisé en élargissant, si vous voulez, l'origine de cette équation à la société entière et en disant que, en fait, il s'agit d'une islamophobie systémique, une islamophobie d'État. Donc c'est vraiment un billard à trois bandes. Et je crois qu'il faut aussi élargir la focale, voir comment ces mouvances réagissent entre elles et sont dans une stratégie de radicalisation réciproque. La deuxième chose, c'est que sur les facs, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre comment le conflit à Gaza, le conflit Israël-Hamas et l'antisémitisme sont aussi des outils à la fois de politique intérieure mais d'ingérence extérieure. C'est-à-dire que bon, la politique intérieure, on a des partis qui ont surfé sur cette thématique, voire uniquement sur cette thématique pendant des campagnes, mais également ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que vous avez des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie, pour ne pas les nommer, qui ont surfocalisé sur la polarisation dans les facs, qui ont voire attiser cette polarisation pour affaiblir le gouvernement Biden, chaque pays pour ses propres raisons. Mais voilà, en France, on a vu ça aussi. On a eu les pochoirs, on a eu les mains rouges, on a eu une fausse vidéo du Hamas qu'on a ensuite attribuée à des réseaux russes. Et donc, l'antisémitisme et la polarisation, parce que c'est un conflit qui est très émotionnel, qui mobilise des considérations identitaires, religieuses très fortes, tout ça s'est instrumentalisé à la fois au niveau de la politique intérieure et au niveau des ingérences extérieures. Et voilà, c'est un des dangers aussi qu'il faut souligner, je pense.
Joseph Poncianon.
Et je trouve que la conséquence de ce que vous décrivez, en tout cas dans les universités, c'est que les gens j'ai envie de dire le ventre mou, la majorité des étudiants qui ne sont ni pro-palestiniens ni pro-israéliens ont du mal à en parler, ils ont du mal à se fixer, etc. Parce que en réalité, ils voient une telle radicalité dans les propos des pro-palestiniens qu'ils n'ont pas envie de s'y frotter. Et donc, ce qui se passe, c'est que les étudiants juifs sont petit à petit ostracisés quand on lit sur les murs de la fac sioniste génocidaire et que 92% de la communauté juive des juifs du monde se disent sionistes parce que bon, bah, ils considèrent que les juifs ont le droit à l'autodétermination des peuples, etc., comme tous les autres peuples. Forcément, quand on est quelqu'un comme ça, de pas très politisé sur le sujet, ben on ne sait pas et on les laisse. On n'a pas envie de s'approcher des juifs.
Lance Binder, un dernier mot. On arrive au terme de l'émission.
Ce qui est très intéressant, c'est que on a un effet loupe sur les réseaux sociaux au niveau de cette tension et cette polarisation. Mais dans la société, en fait, on a des études, par exemple Jérôme Fourquet ou alors la Fondation Descartes, qui montrent que finalement, dans son ensemble, la société française est beaucoup plus raisonnable que ce qui apparaît comme brutalisation du débat sur les réseaux sociaux.
Fadila Maroufi, un dernier mot.
Oui, moi je pense qu'on a beaucoup parlé du 7 octobre, mais le 7 octobre, plus globalement, en fait, c'est l'attaque contre le monde occidental. Donc il faut bien expliquer aux citoyens que ça touche tout le monde, et pas uniquement la communauté juive.
Absolument.
Et d'ailleurs, la communauté juive qui fait partie des citoyens français ou belges. Et c'est, pour moi, c'est important de pouvoir le souligner. Et je pense aussi que les jeunes et les citoyens ne le comprennent pas tant que ça, parce qu'on n'en parle pas et on n'accentue pas, on n'explique pas assez aux gens que c'est important et que ça les touche. Et que derrière tout ça, c'est vraiment nos valeurs laïques, séculiers, qui sont touchés. Nos valeurs qu'on veut transformer, on veut absolument transformer nos pays en un pays théocratique, islamiste, par les frères musulmans. Et ça, il faut vraiment à chaque fois le rappeler, comme rappeler l'histoire de comment les choses ont commencé depuis le départ.
Under the sky, with gods for companions, I saw with my eye dryads and naiads and all their clans in the company of Pan. Call it strange, we live, we die, all may change in the wink of an eye. I recall the dread of the gathering clouds, the way you recoil. Shouts and the rage and the sudden fear failed to disappear. Yet the touch of your hair as it brushed my cheek, and you telling me no, don't sing, don't speak, and your skin so warm in the dark alive night.
Et Fadila Maroufi, merci Laurence Bintner et Youssef Murciano d'avoir été présents tous les trois. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Sofiane Aktib et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
Vous êtes bien sur France Culture.
Ce sont des noms d'émissions cultes.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Le Pop Club de José Arthur, Les Nuits Magnétiques, Allo Macha, Love in Fun, Super Nana.
Bonsoir et bonne bourre, comme disait le duc de Windsor.
Autant de voix, autant d'animateurs, autant de façons de faire de la radio la nuit sur lesquelles nous revenons ce week-end dans Salle des Archives.
Salle des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Je permets à des enfants de 9 à 15 ans de grandir en musique.
Avec moi, ils se produisent à des événements exceptionnels, comme au jeu, au pied de la Tour Eiffel ou au Panthéon.
Je leur donne l'occasion de chanter aux côtés de stars d'Hollywood.
J'accueille des enfants de toute la France.
J'offre un enseignement musical d'excellence et gratuit.
Je suis l'une des formations musicales de Radio France.
Je suis...
La maîtrise de Radio France.
Et ben voilà.
Inscription pour l'audition avant le 22 janvier sur maison de la radio et de la musique.fr.
Et tout de suite, une histoire particulière.
Benita en Guinée. Ô séduisante fée, belle fille d'Orphée, par toi tout passe et tout renaît.
Dans ton palais de l'impossible, tout y devient réalité. Ce qui paraît affreux, terrible, se change soudain en beauté. Et tes mains magiques et belles savent créer tout un trésor.
Des oiseaux à l'amour fidèle, des bijoux, des fleurs et de l'or.
Ta parole est enchanteresse et ton enjouement sans égal. N'es-tu pas comme une déesse de l'amour et de l'idéal ?
Par toi tout passe et tout renaît, ô séduisante fée, belle fille d'Orphée, Benita en Guinée.
Poème d'un admirateur anonyme de Senlis, 1859.
Benita en Guinée, 1819-1887, la reine de l'illusion. Deuxième partie, comment faire disparaître une magicienne.
À partir du succès parisien de Benita en Guinée, à la fin des années 1850, on observe non seulement la mise en avant des femmes dans les programmes et dans les affiches d'illusionnistes professionnels.
Pierre Taillefer, co-auteur de Mademoiselle Benita en Guinée, la première magicienne.
Mais également un développement de la pratique en amateur de l'illusion. Les boîtes de magie qui étaient vendues à l'époque dans les magasins de jouets, qui portaient souvent une lithographie sur leur couvercle, désormais arborent parfois des jeunes filles qui pratiquent les tours de magie. On le voit aussi dans les journaux de mode illustrés qui nous montrent des jeunes filles qui font des tours de magie. Alors,